Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique.
Alors, salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille. On est le dimanche 23 mars 2014 et c'est avec un grand plaisir qu'on reçoit ce soir en entrevue l'artiste multidisciplinaire Hugo Nadeau dans le contexte d'une résidence de recherche et de création qu'il a menée à Avatar il y a quelques mois. Alors, le projet d'Hugo Nadeau s'intitule « Les Invisibles » et a consisté à cumuler des centaines d'enregistrements d'ambiance sonore provenant de situations humaines saisies à l'improviste. Il en résulte une compilation sonore regroupée dans un album intitulé « Wonder Woman's Invisible Jet » et dont Hugo Nadeau nous livre les clés. Alors, pour parler un peu d'Hugo Nadeau, c'est un artiste visuel et numérique qui s'exprime à travers la performance, la poésie et une vision conceptuelle de l'art que nous révèlent ses projets perpétuels, comme il les appelle. Et on pense, entre autres, au projet Conspiration H1N1, projet citoyen modèle, l'édifice H, Nadeau pour la poésie, et j'en passe. Hugo Nadeau se considère comme un artisan des nouvelles technologie visant un travail ramifié, exemplaire, indépendant des aliénations économiques et sociales. C'est ce qu'on peut retrouver sur son site internet. Alors, sans plus tarder, on écoute Hugo Nadeau nous entretenir de son projet Les Invisibles et de l'album sonore qui en est issu, intitulé Wonder Woman Invisible Jet, et on démarre ça avec cette première pièce intitulée Piste cachée.
Nadeau, bonsoir.
Allô?
Hugo, ce qu'on vient d'entendre en introduction, c'est une pièce qui s'appelle la pièce cachée, donc la toune cachée d'un disque. C'est de quel disque il est question?
Ben, en fait, le disque s'appelle Album, et en parenthèse ou comme deuxième titre, là, Wonder Woman's Invisible Jet, le jet invisible de Wonder Woman.
Et ce qu'on a entendu, c'est la pièce cachée, qui habituellement, c'est la dernière pièce d'un disque, mais cette fois-ci, elle arrive quelque part en plein milieu.
Oui, bien, en fait, c'était une stratégie très simple qui était celle d'avoir 12 pièces à la fin, puis aussi de parler d'un genre de contraste là, qui se passe avec la pièce juste avant, qui est extrêmement bruyante, qui est comme le son d'un ramassis de moteurs qui sont accumulés dans la même trame. Là, ici, c'est plus des sons plus subtils d'eau, de petits moteurs, le moteur d'un frigidaire. Mm-hmm. C'est comme l'après-faux départ, parce que la pièce juste avant s'appelle Faux départ. Puis c'est comme un peu la fin de la pièce Faux départ. Fait que j'ai décidé d'appeler la pièce cachée.
Mais tout ça, c'est dans un disque qui est issu d'une excavation sonore que tu as réalisée chez Avatar. C'est la première fois que tu travailles, à ma connaissance, que tu travaillais l'art audio?
Bien, en fait, c'est l'idée de m'inviter à Avatar pour le projet d'excavation sonore. Ça vient en fait d'un projet que j'ai commencé il y a plusieurs années, qui s'appelle Les Invisibles. Mm-hmm. Donc, un projet très simple qui consiste à prendre un iPod ou un bidule de ce genre-là, qui est portatif, d'utiliser des écouteurs micro, c'est-à-dire des écouteurs qui... en fait, un microphone qui est assez invisible, puis d'enregistrer des ambiances sonores, c'est-à-dire un temps donné dans un lieu, de façon invisible, sans vraiment que les gens qui sont même présents dans ce lieu-là puissent s'en rendre compte, puis d'utiliser ensuite les trames dans le but de monter un projet où je parlais de ça en désignant peut-être une web radio, ou du moins une collection assez fournie que je pourrais rendre disponible sur Internet, ce que j'ai fait auparavant de façon assez, assez locale. Mais ça, le projet d'excavation sonore est vraiment issu de ça, Les Invisibles. Puis éventuellement, ça pourrait être beaucoup plus poussé, c'est-à-dire mener à une web radio continue dont le contenu peut être augmenté et augmenté encore et encore.
Donc, c'était l'objet d'une résidence. Comment tu as fait ça, ton excavation sonore?
Ça s'est passé à Avatar. Donc, une semaine de résidence où j'ai pu utiliser toutes les trames que j'ai accumulées jusqu'à présent. J'en avais environ 400. Beaucoup se passait à Québec. Enregistrement d'ascenseurs, de restaurants, de salles de spectacle, de performances qui se déroulaient au lieu, par exemple. Un temps de travail à l'œil de poisson avec les photocopieuses en marche, ce qui se retrouve aussi dans l'album. Quoi d'autre aussi, toutes sortes de trucs. Donc, c'était l'occasion de prendre ces 400 ou 400 quelques trams-là, puis d'en faire quelque chose. J'ai décidé de prendre à peu près juste des trams qui venaient de Québec, ou sinon des trams qui venaient d'ailleurs, mais qui contenaient juste des sons indescriptibles. Le but, c'était d'en faire aussi une sorte de spatialisation, parce que l'enregistrement avec un petit micro d'iPod et compagnie, c'est mono, c'est une qualité assez basse. Fait que j'ai modifié beaucoup les sons pour essayer de les améliorer. J'ai souvent utilisé des sons qui se ressemblaient, par exemple, deux ou trois sons de frigidaire ensemble. Un qui serait plus un peu à gauche, un qui serait plus à droite, pour qu'il y ait une certaine spécialisation comme ça. Il y a aussi un remontage, c'est-à-dire que des fois, j'en utilisais seulement une petite minute. Des fois, j'en faisais une très longue trame qui dure 10 minutes et compagnie. Je souhaitais en même temps faire une sorte de mise en situation, une sorte de narration à partir de, à partir de tout ce que j'avais. C'est pour ça qu'un peu l'idée de Wonder Woman est arrivée à un moment donné. C'est-à-dire, à partir des Invisibles, j'ai fait une certaine recherche. Puis, le vaisseau de Wonder Woman m'intriguait. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez tous l'histoire, mais c'est vraiment intéressant. C'est que l'idée, c'est que Wonder Woman a un vaisseau spatial extrêmement technologique, mais ce vaisseau-là est invisible. Mais sauf que quand elle utilise le vaisseau, elle est visible dans le ciel, donc on la voit assise dans le ciel, qui se déplace avec les mains qui tiennent sur un certain volant, invisible aussi. Donc, je trouvais que ça désignait directement le projet Les Invisibles, un dispositif invisible, mais moi qui est visible dans l'espace, mais que les gens ne se doutent pas qu'il se passe quelque chose.
Bien, on va commencer par une première pièce, Hugo, que tu as intitulée « Je peux pas m'échapper, Huberco est dans ma chambre ».
Oui, elle est dans sa chambre, oui.
Elle est dans sa chambre, oui. Quand on parle d'Huberco, on parle bien d'Huberco, le groupe, là.
Oui, c'est ça. L'artiste, oui. Oui. Ben, en fait, Marc-Olivier, qui a été mon coloc un certain temps, qui fait partie d'Huberco et est à la base d'Huberco. Maintenant, Huberco est en solo, donc c'est vraiment juste lui. Eh bien, lui est en train de pratiquer certaines pièces qui allaient venir dans sa chambre. On peut entendre sur la trame toutes ses expérimentations. Puis en même temps, puis il était dans sa chambre à ce moment-là, donc j'ai utilisé la trame, puis je l'ai modifié un peu, puis ça a donné ce titre-là.
Mais on va l'écouter.
Oh, mais en plus, j'avais pas fait ça, je vais m'en aller. Je vais un genre.
Maintenant, on va enchaîner avec la sixième pièce de l'album, qui s'intitule « L'alarme est partie pendant que j'étais dans ma douche ».
Oui, oui, oui. Ben, ici, c'est vraiment un mélange de différentes trames, c'est-à-dire une trame d'alarme qui est l'alarme, je pense, de l'œil de poisson ou du corridor qui mène à l'œil de poisson.
Mm-hmm.
J'avais le choix entre utiliser l'alarme de méduse directement, l'alarme de l'œil qui est un peu plus douce. J'ai plutôt opté pour celle de l'œil parce que l'alarme de méduse, je l'avais utilisée lors d'un cabaret audio au Mois Multi, mm-hmm. Avec Signal Panache. Puis là, ça posait peut-être un peu problème parce que là, c'était vraiment le son de l'alarme. Et puis on l'entend distinctement vu que c'est très aigu, même dans un capharnaüm de son. Cette fois-ci, j'ai utilisé l'alarme plus de dans le coin de l'œil de poisson. Puis aussi un son de moi qui prends ma douche à un certain moment. Puis ça... Juste le titre donne une certaine mise en situation, en fait, de cette possibilité que l'alarme sonne, qu'on n'entende pas en étant en une activité,
ben oui.
Puis que ça soit plus ou moins dangereux. Là.
Alors, on va l'écouter, celle-là, donc. L'alarme est partie pendant que j'étais dans ma douche. C'était donc l'alarme est partie pendant que j'étais dans ma douche. Dans la douche. La prochaine, tiens, Faux calme.
Faux calme, qui est un titre assez simple parce que ça vient directement d'une émission de Jacques Languirand, donc d'un livre qui parlait de différents traits de personnalité ou différentes... situations sociales qui peuvent arriver aux gens, là, des tempéraments différents. Donc là, Jacques Langrand parle du profil faux calme, mais juste à la fin complètement de la trame. Ce qui est intéressant dans cette trame-là, c'est qu'il y a une certaine mise en situation, il y a une musique qui joue, qui dure très longtemps. Souvent dans les émissions de Jacques Langrand, il y a des pièces qui durent 10 minutes, des instrumentales et compagnie. Donc là, on entend une musique qui se déroule avec en même temps moi qui fais la vaisselle. Ou qui gratte, qui gratte la vaisselle un peu. Puis on entend juste la voix de Jacques Legrand à la fin qui met un petit peu plus à la situation là, de ce qui se passe dans le film.
Hugo, je trouve qu'on puise énormément dans la culture populaire au sens large. Là. Puis est-ce que cette excavation sonore-là, est-ce qu'elle est un peu le reflet de ton travail artistique en général ou si on est dans des eaux un peu différentes? En fin de compte, j'aimerais ça t'entendre parler de ton travail d'artiste, puis essayer de voir un peu les correspondances qu'on y retrouve dans cette excavation sonore.
Oui, je comprends. Ben, en fait, le fait que tout ça est très proche du quotidien par rapport au fait que je crée des enregistrements qui avaient toujours rapport avec ma vie, ce qui se passait dans toutes les situations, puis à un moment donné, l'accumulation faisait aussi que j'avais comme une motivation à presque tout enregistrer, ce qui se passait dans ma vie. Il y a une présence forte du quotidien là, qui rapproche un peu toujours de la culture populaire, parce que bon, tout ce qu'on entend, même en allant dans un magasin, c'est la culture populaire comme la deuxième piste de l'album qui...
J'étais endormi sous les étoiles, que même mon âme s'est envolée.
Exactement, ce qui fait référence à une chanson qu'on connaît bien, là, de Marjo.
Oui,
donc, cette culture populaire-là qui est un peu partout et qui même force son chemin, je pense, dans nos vies, sans même qu'on le veuille, là, dans bien des cas. Fait que ça, il y a une présence forte là-dedans. Puis c'est vrai que dans ma pratique en général, ça se retrouve, là, ça, de façon peut-être un peu parodique des fois, comme... avec les différentes vidéos que j'ai fait récemment là, pour le lieu.
Oui, bien, on parle de l'exposition qui vient de se terminer, là, avec où tu avais toute une série de vidéos sur ta famille, sur le mariage de ton frère, le voyage dans l'Ouest canadien.
Oui, puis ça contenait
tous
aussi...
tous les clichés qui entourent le mariage et la cérémonie.
Ouais. Ça contenait aussi une revue donc qui émettait les revues à potins ou les magazines à potins en fait avec tout ce que ça comprend l'espèce de mise en page tout à fait non originale et quétaine et explosive et trop colorée et aussi les slogans assez mal pensés et bon toute l'affaire ouais. Ouais, je pense que j'ai un certain plaisir à me rapprocher de la culture populaire des fois pour donner plus facilement commentaire à certaines réalités qui sont tellement autour de nous puis qui, comme je disais avant, qui forcent leur chemin dans nos vies là. Ouais.
On est loin de Faux calme, de Languirand qui est quand même assez près, lui aussi, malgré tout, de la culture populaire.
Oui, d'un sens.
Dans un certain sens, Languirand, c'est un espèce de révélateur de ce que nous sommes, quelque part. Donc, on va écouter, justement, cet extrait qui s'appelle Faux calme. Thank you. Donc, cette chanson de Margeau, peux-tu nous décrire un peu ce qu'on voit dans cette chanson?
Bien, c'est une chanson de Margeau que j'ai entendue au Escompte le Comte, là, ici à Québec, là, qui est un peu interrompue à toutes les quelques secondes par la porte automatique là, du Escompte le Comte qui fait un assez grand bruit extraterrestre. Donc, c'est surtout la présence de la porte qui fait une différence dans la trame ou qui prend de la place, là, mm-hmm. disons, dans la trame.
C'est elle qui prend le dessus.
Oui, c'est sûr. C'est sûr.
C'est elle qui gagne.
Oui.
Écoute, on va enchaîner avec une autre pièce. Tiens, celle-là, c'est écrit « En route », un petit « A » puis un grand « R » pour...
Oui, c'est le titre de la revue qui est disponible là, dans les avions
d'Air Canada.
Mm-hmm. Ouais. Donc, la trame a été composée à partir d'un moment dans un avion, ouais, avec le décollage et compagnie, probablement un avion d'Air Canada. Puis aussi un moment de travail... lorsque je travaillais au Best Western Centre-Ville à Québec. Ce qui se passe surtout, c'est que bon, je suis en train de travailler, puis je parle à des clients anglophones. Puis là, il y a un employé qui arrive, puis il vient me demander si je veux un café. Puis là, ensuite, il commence à me parler de son travail et compagnie, du fait qu'il prend des pauses des fois pour aller boire un café. Puis il dit « en route lui-même », puis après ça, il s'en va. Donc, au moment où il dit « en route », c'est là que le moteur de l'avion commence, puis l'avion décolle. Puis c'est peut-être la trame qui fait, qui donne l'impression, à un moment donné, si on est concentré sur l'album, que là, le jet invisible de Wonder Woman, c'est en fait la trame narrative de tout cet album-là. Puis peut-être que chacune des pièces se trouve à être un... différentes pièces dans le vaisseau ou dans le jet, ou qu'il y a peut-être une certaine mise en situation comme ça qui peut être générée, vu qu'on entend parfois des sons de moteur, du déplacement, des choses comme ça.
Mm-hmm. Dis-moi, Hugo, est-ce que tu as travaillé de manière un peu structurée pour faire cette excavation sonore, intuitivement, ou encore si tu étais préparé au quart de tour avec un scénario de travail?
Non, pas du tout. Ben, c'était très intuitif, là. Par une forme d'essai et erreur et aussi un certain amusement personnel à jumeler des éléments, puis peut-être rendre un petit peu plus présent des petits commentaires qui arrivaient des fois, certains messages que certaines personnes disaient, puis je voulais qu'ils prennent de l'espace, comme le fameux commentaire en route de l'employé que j'avais le goût de faire ressortir un peu. Là.
Ouais. Mais ce qu'on écoute ici, c'est des pièces dont tu as fait des extraits.
Ouais.
Parce que ça fait à peu près 46 minutes en tout. Là. C'est comme
c'est la version courte.
Mais l'excavation sonore comme telle, elle dure 1 heure et 26.
Ouais. Ouais.
Et elle, on peut l'entendre dans l'ascenseur de Méduse, par exemple.
Oui, aussi sur Internet, sur, sur le site d'Avatar, je pense qu'il y a un lien facilement trouvable là, pour ça.
Alors, on va continuer notre excavation sonore avec une autre pièce qui s'appelle « Des fois, sont pas toutes là ».«
Des fois, sont pas toutes là ».
Il y a beaucoup d'humour dans tes
oui,
comme toujours.
« Des fois, sont pas toutes là », c'est une citation, disons, de mon frère. C'est une de mes trames, disons, préférées dans toute la série de 400 que j'ai enregistrée. Puis c'est pour ça que je voulais la mettre à la fin puis qu'elle prenne une bonne importance dans l'album. Puis c'est une forme de commentaire sur la situation de l'artiste dans l'esprit des autres et compagnie. C'est une trame qui est enregistrée, j'ai presque pris intégrale celle-là en fait, est enregistrée dans un bar de danseuses de Québec. Là. Je pense que c'est le Folichon, en tout cas, peu importe.
Pas spécialiste.
Puis j'étais là avec mon frère, puis... qui, lui, habite en Alberta, donc il y a une motivation plus grande à aller dans des bars de danseuses du Québec. Puis, je pense que c'est parce que dans l'Ouest canadien, c'est un autre système, là, un peu...
C'est pas le même costume, ils ont pas les mêmes...
je pense qu'il faut lancer des sous sur la danseuse, puis elle peut nous donner un poster si on a réussi à atteindre ses seins. Je sais pas trop. De ce qu'on m'a décrit, c'était un peu ridicule, puis c'était une autre réalité complètement. En tout cas, je me suis retrouvé là, puis j'étais extrêmement intéressé à aller dans un bar de danseuse, entre autres parce que je pensais à enregistrer une trame sonore. Là, mm-hmm. Donc là, l'histoire étant que j'ai envie d'aller aux toilettes à un moment donné au bar de danseuse, j'ai enlevé mes chaussures parce que je pourrais être plus confortable. Puis là, je pars aux toilettes avec juste mes chaussettes. Puis là, la danseuse, à un moment donné, dans la trame, on l'entend, commence à faire un commentaire sur le fait que je suis en chaussettes puis que je pars comme ça. Puis là, évidemment, ça continue à enregistrer, puis moi, je suis parti. Puis là, mon frère dit « Ah, c'est ça, les artistes sont pas toutes là. » Donc, ce qui était absolument amusant, c'est que j'ai quand même pu entendre son commentaire, qui est un peu péjoratif sur les artistes. Là.
Mais ça me fait penser ça, à ce que justement tu as présenté chez Haut-Lieu, toute cette série de films autour du mariage de ton frère.
Oui, c'est ce frère-là en question.
Et il y a dans ta famille une sorte d'adulation, je dirais. Les gens sont très fiers de toi. Ta famille a l'air d'être très contente de t'avoir comme artiste. Puis ils se prêtent à ton jeu aussi. Là.
Oui, absolument.
Parce qu'ils ont participé grandement là, à toute l'élaboration de ça. Ils font des stepettes, ils ont fait plein de choses pour que tu puisses réaliser tes 10 émissions qui ont l'air des vraies émissions de télévision.
Oui, bien, c'est très ramifié, ce qui me permet de bénéficier de l'aide des gens très facilement, c'est-à-dire avec un consentement qui ne demande pas beaucoup d'efforts, je pense, de leur part. Mm-hmm. C'est-à-dire que toutes les vidéos, en fait, tous les épisodes des Joyeux Mariés, qui sont les épisodes filmés originellement par ma mamie, ben, en fait, ça a été facile de les obtenir parce que ma mamie les a déjà fait en filmant 5 heures de vidéos.
Puis en les commentant aussi.
En les commentant aussi. Évidemment, c'est ce qui prend place super importante dans le résultat final. Donc là, c'est plus facile d'obtenir de mamie quelque chose qu'elle a elle-même déjà fait par sa propre initiative, aussi d'obtenir de mon frère les photos du mariage qui a déjà commandé, puis qui a déjà en sa possession, que de leur demander de participer, de faire une performance, de faire un truc qu'ils n'ont pas envie de faire et tout ça. Je fonctionne vraiment à partir d'initiatives qu'eux ont eues. Incluant dans le magazine qui accompagne mon exposition au lieu, j'ai écrit par exemple les préférences de ma mère en télévision ou en série télé et compagnie. Donc c'est assez facile vu que c'est déjà des trucs qu'elle écoute, qu'elle aime. Mm-hmm. J'ai voulu aller dans leur sens à eux, pour que leur participation soit vraie en fait, puis leur participation soit comme facilement volontaire et qu'elle ait envie de participer aussi.
Alors, on va écouter celui.
Ouais,
oui.
Ouais, ben là, il y a comme une trace de froid.
Non, mais sérieux, c'est quelque chose. C'est l'habitude. Peut-être par l'habitude, vous êtes correct.
Ouais. Oula! Ben, en plus, dans ce qu'on change, c'est plus froid.
OK. Frigo?
Ouais.
Ça vous donne de l'entrain ici pour votre prochain show?
Ouais. C'est parce que la porte, comme de l'extérieur, pour les sorties d'urgence des cuisines, ça monte. Ben, okay, c'est là que tout le monde sort pour aller fumer.
Ah, OK. Fait que là, la porte
ouvre tout le temps. La froideur monte directement dans ce qu'on change.
Oh. Ah, ça n'avait pas été prévu, ça, je l'imagine. Ah, moi, je peux plus me retenir. Faut que j'aille visiter le sous-sol.
Hey, je laisse dire ça.
Ben, vas-y. Je suis content que ça va faire j'ai ici.
Ouais, c'est beau, hein?
Rose de partout. Belle place. Bonne place à Québec aussi.
Hein?
On fait bonne place à Québec?
À l'entrée.
L'entre-deux?
Entre nous.
Entre nous. Et combien de bars à Québec? 4? 4, 5?
C'est différent de Montréal.
Hein? Ben, à Montréal, il va y avoir des tonnes et des tonnes.
Ouais.
Ouais, ça doit être compliqué. À Saint-Jean-de-Beauce, il y en a. Un, je pense. Ou deux.
Le bord de l'eau.
Le bord de l'eau, c'est comme ça que ça s'appelle?
Le bord de l'eau.
Ouais. Ça se peut. Sur la première avenue.
pas. C'est juste qu'il y a un bar de danseuse qui s'appelle le bar de l'eau en bas.
Ah, peut-être que c'est pas à Saint-Zach.
C'est un petit running gag, genre, quand il y a des enfants ou il y a des femmes. Fait que là, hein, on va-tu pêcher au bord de l'eau?
J'avoue, ça fait du sens.
Tu sais, les femmes, là, ils font comme...
Hein?
Les femmes font tout, genre, tu sais, penser qu'on sait pas.
Ils savent trop bien.
Ça fait normal.
J'ai travaillé dans un hôtel à Saint-Georges, puis il y avait un autre bar qui s'appelait, il y avait un numéro là, de bar 5, quelque chose, je sais plus. Mais ouais, mais c'est pas tout à fait à Saint-Georges, il n'y en avait peut-être pas dans ce temps-là à Saint-Georges. La seule fois que je suis allé, c'était sur la première avenue, ça s'appelait peut-être le bar de l'eau, tu sais. Puis il y avait, c'était comme un sous-sol pratiquement, c'était une toute petite pièce. C'était très étrange comme feeling, là. C'était vraiment pas décoré ou avec une ambiance quelconque. Là. C'était un peu sous-sol. Okay. Moi, j'allais au sous-sol, moi aussi. Hein. C'est comme ça, mais reste que... J'aimerais y voler sa place.
Il est parti du bas, je pense.
Comment?
Il est parti du bas.
C'est bon, c'est mieux que mes pieds.
Ouais.
Mon frère, c'est un artiste. T'sais, des fois, ils sont pas tous là.
Fait
que
tu
retournes
dans ton
petit
point de
vie. Il retourne. Il est-tu pas du
midi? Puisqu'il est question de ton frère, oui. Ben on va en abuser abondamment. Parle-nous donc de la 12e pièce, qui est en fait la 13e, qui s'appelle « Départ, le maximum du véhicule ».
Donc, le maximum du véhicule, c'est encore quelque chose que mon frère a dit à un moment donné. Puis, ça fait suite à « Faux départ », qui arrive plus tôt. Qui est le « Faux départ », qui est une collection de sons de systèmes d'aération, puis de moteurs et compagnie. Donc, départ, c'est le véritable départ dans l'album. C'est comme, d'une certaine manière, l'aboutissement de tout ce déplacement-là et de tous ces sons de systèmes électriques et autres trucs. Donc, la trame commence avec un enregistrement de mon frère qui est en train de conduire sa grosse Westphalia dans l'Ouest canadien. Puis... à certains moments, on peut même entendre les pneus crisser pendant qu'il y a des virages parce que ça va un peu vite. Puis là, comme sa conduite est assez rapide, là, ben il fait un commentaire disant qu'il a déjà fait le même trajet dans les montagnes dans l'Ouest canadien avec une autre auto, puis que cette fois-là, il utilisait le maximum du véhicule puis il allait très vite. Puis, fait que c'est un peu... C'est, disons, une trame qui met en situation une situation peut-être plus critique. Fait qu'on sait pas trop ce qui peut se passer. C'est ça que j'aime beaucoup dans cette trame-là. Le fait que, comme elle dure un certain temps, tout peut arriver. Il peut avoir un accident, il peut avoir une explosion, il peut avoir quelque chose. Donc, il se produit ça au départ de la trame. Mais ça finit très doucement avec moi qui est dans mon auto, puis qui part une toune, puis qui se déplace tandis qu'il y a un peu de pluie... qu'on peut entendre à l'extérieur de l'auto, puis avec une sorte de fondu très, très, très lent à la fin de la trame. Ouais.
Ce travail d'excavation, je reviens tout le temps au projet en tant que tel.
Ben oui, absolument.
Mais est-ce que tu comptes retravailler à partir de cette excavation? On en a fait des pièces, évidemment. Il y a quelque chose d'autobiographique pratiquement dans cette démarche. Tu
écoutes
parler de ta famille, c'est même assez, assez intéressant comme approche. Mm-hmm. Mais comme matériel de travail là, sur le plan performatif, là, est-ce que ça t'inspire des projets à venir?
Deux choses, je dirais. En fait, là, je suis très content d'avoir rempli un certain fantasme que j'avais pas, mais que je me suis développé par l'excavation sonore, qui est le fait de pouvoir composer un album, puis de dire que j'ai vraiment un album à mon actif, je sais pas trop quoi, c'est un fantasme un peu drôlatique, mais c'est amusant. Puis ensuite de ça, j'aimerais beaucoup faire un projet qui était à la base même de la première initiative du projet Les Invisibles, qui est de faire une sorte de web radio extrêmement facile d'utilisation pour accompagner un site, un projet web. On avait déjà parlé, Jean-Pierre, le projet sur l'incroyable quantité de data, là, passer un bon coup de data. Donc, un projet web inclusif avec des tonnes d'éléments, puis pouvoir accompagner ce projet-là par une trame sonore qui roulerait en continu, qui commencerait tout seul, qu'on ne pourrait pas vraiment enlever, puis qu'on ne pourrait pas nécessairement toujours distinguer facilement, qui serait à très bas volume. Donc ça serait une de mes pistes. Puis la deuxième, en fait, c'est d'incorporer ce projet-là dans un projet de jeu vidéo artistique que je suis en train de monter, qui va s'appeler « Nous aurons », qui va être présenté
le
avec...
Le fameux « Nous aurons ».«
Nous aurons », oui, qu'on peut voir sous forme de publicité de 30 secondes là, parmi les vidéos dans l'exposition au lieu, mais aussi qui va être présenté à Folie Culture sous forme de performance d'une semaine. Donc, à Folie Culture, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer pendant une semaine de façon assez continue à ce jeu d'ordinateur artistique-là que je vais avoir créé de toutes pièces. Puis j'aimerais l'accompagner de tonnes de trames sonores, d'effets qui vont s'accumuler, qui vont se mélanger, mais par l'action du joueur, par son déplacement dans différents univers, différents lieux. Donc, ouais, ça va faire partie de mes projets artistiques futurs. Ça.
Finalement, tu utilises toujours un peu tes matériaux que tu recycles, que tu réutilises à d'autres fins.
Oui, ben j'adore les ramifications, la complexité... le mélange d'éléments entre différents projets. Puis j'aime beaucoup aussi cette possibilité-là que peut avoir un artiste d'avoir une pratique continue, puis donc de développer potentiellement des projets permanents, des projets qui finissent par influencer d'autres projets aussi. C'est pour ça que j'aime bien créer des projets qui contiennent beaucoup d'éléments, puis qui me permettent même de publiciser d'autres projets qui s'en viennent ou des fausses organisations que j'ai pu créer.
Comme nous aurons, on pouvait le voir.
On pourrait dire que nous aurons avait rien à voir avec l'exposition que j'ai faite au lieu, mais pourtant, on peut avoir une certaine piste vague qui n'est pas nécessairement mentionnée ou qui n'est pas nécessairement décrite. Là.
Puis cette idée de jeu vidéo, ça te ramène aussi à ce que tu avais présenté il y a quelques années à la Chambre Blanche, je me rappelle bien ton espèce de site, faux site Internet,
oui,
qui était un jeu en soi, mais il fallait avoir plein de codes pour pouvoir le comprendre, le jouer.
Oui, oui, c'est, je pourrais dire, la suite d'un jeu d'ordinateur que j'ai modifié à la fin de mes études au bac en art à l'Université Laval, où là, j'ai fabriqué un jeu qui s'appelle « La conquête de l'excellence », qui permet de conquérir le monde en étant une armée
du Rouge et Or.
Sous le drapeau du Rouge et Or et de l'Université Laval. Oui.
C'est là où on te voit en joueur de football, non?
Oui, en partie oui, parce que l'image de moi en tant que joueur de football, c'était une image qui présentait une exposition que j'ai faite au pavillon Desjardins, qui comprenait ce jeu-là.
Qui comprenait entre autres ce jeu-là.
Oui,
puis Oscar Ndia Romeo.
Qui ont monté l'expo avec moi, qui ont participé au projet, puis qui ont réalisé des pièces aussi pour ce projet-là.
Ben Hugo, merci beaucoup d'être passé. On va se laisser avec la chanson du départ. Ça va bien?
Oui, oui, tout à fait.
Alors, le maximum du véhicule, on se laisse là-dessus. Merci d'être passé à l'accrocherie.
Ça fait très plaisir.
C'est assez intense, la route, tout de suite.
Mon ex, c'est japonaise, mais elle avait la couleur de peau vraiment blanche. Elle aimait pas ça. J'avais pas le même véhicule, en fait, j'avais mon col.
Elle est plus vite.
Ah oui, là, j'allais au maximum du véhicule. C'est pas trop non plus, mais là, quand même.
Alors voilà ce qui complète l'émission de ce soir avec l'artiste Hugo Nadeau. Vous pouvez réécouter les émissions et trouver la liste des pièces présentées au cours de nos émissions sur le site lacrocheoreille.wordpress.com. Alors, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre édition de La Croche-Oreille. Et d'ici là, eh bien, prenez le temps d'écouter les sonorités autour de vous.
Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.